Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 31 mai 83, troisième cours.
Je vous disais ce matin, en terminant, qu'il fallait bien comprendre le point de vue topique historique par rapport au problème de Dieu, un premier moment de la philosophie ancienne, de la philosophie grecque, bien avant ce que vous dites. Et de comprendre que le problème logos philosophie, donc la recherche philosophique, par rapport à ce que représente une tradition religieuse sur Dieu, les mythes sur Dieu, tout le monde que représente Zeus. Comprendre ce qui est le logos philosophique par rapport à cette tradition. Et donc, par le fait même, le problème, de temps en temps, très rare, uniquement Platon. Je crois que Platon a été le premier apologète sous ce moment-là, face au sophisme. Platon a été le premier à préciser que, nécessairement, il fallait accepter qu'il existe un Dieu. Et ceci, c'est dans les lois. Face à ce que représente justement tout le point de vue, si vous voulez, des sophistes. Des sophistes qui affirmaient la négation en premier lieu. Mais autrement, le problème qui se pose, c'est beaucoup plus savoir qu'est-ce que c'est que Dieu, le tiesti. Alors comprenons bien, quand ce problème se pose du tiesti, qu'est-ce Dieu? C'est pas du tout savoir la nature de Dieu, c'est comprendre comment il faut écarter toutes les imaginations. Et le tiesti est une question très très générale. Alors, nous, elle précise énormément la philosophie de première lieu. Comment Aristote se pose le tiesti de Dieu, ça ne veut rien du tout qu'Aristote veut savoir le tiesti de Dieu. Il sait très bien que l'acte pur, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais c'est plus pour regarder l'aspect comment Dieu n'est pas ce que nous voyons dans le monde physique, dans le monde matériel. C'est beaucoup plus simple. Et c'est quand même intéressant de voir que cette question du TST est posée. Qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième période très importante, alors la période des théologiens. Toujours en vue de chercher les sommets de la philosophie occidentale. Alors, il y a cette chose importante de saisir parmi les théologiens et les thèses de l'Église où les pères de l'Église et les théologiens vont se servir du logos grec pour essayer de mieux préciser ce qu'est Dieu. Alors, ici, comprenons bien tout le problème de la foi. Ce n'est plus les traditions religieuses devant lesquelles on se trouve. C'est le problème de la foi. Alors c'est tout à fait différent. Parce que les traditions religieuses, le philosophe et le métaphysicien peuvent les purifier. Tandis que je ne dirais pas que le philosophe et le métaphysicien peuvent purifier la foi. Il ne peut pas purifier la foi. Mais il peut se mettre au service de la foi. Le rôle est différent, et ça je crois que c'est quand même très important parce que ça fait tout de suite comprendre le climat tout à fait différent de ce premier moment de la philosophie grecque où on est en face, j'allais dire, de recherche philosophique. Plotin est encore un homme qui recherche. Après Plotin, c'est différent, on a des commentateurs. On a des commentateurs, il est juste après Plotin, Romulus, Damasius. Ce sont les commentateurs dans le néoplatonisme. C'est le néoplatonisme qui a inventé les commentateurs. C'est curieux, c'est intéressant pour ça. C'est le néoplatonisme. Les commentateurs grecs, les commentateurs philosophes, des grands philosophes. Autrement dit, qui considèrent des textes qu'on commente. Tandis que les autres étaient des chercheurs. Commenter un texte, c'est très très bien. Tout à fait d'accord, commentateur, c'est très très bien. Mais ce n'est pas encore la philosophie au sens absolu. Commenter un texte, on peut le commenter philosophiquement, c'est très important. Il faut commencer par ça. Il faut tous qu'on commente des textes. Et jusqu'à la fin de sa vie, on commente des textes. Mais il faut vraiment comprendre que commenter des textes, ce n'est pas la philosophie. La philosophie, c'est cette recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité. Tandis que quand on commente un texte, on essaie de comprendre la profondeur d'un texte. On essaie de comprendre ce qu'un texte philosophique peut contenir d'intérêt, d'importance, de vérité. Et quand vous commentez le Périple Suquès, par exemple, parce que c'est un texte merveilleux à commenter, les professeurs sont des commentateurs. Les bons professeurs sont des commentateurs. En tant que professeur, on fait entrer dans un texte. C'est bon. Parce que c'est intéressant et c'est important. Et c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Philosophiquement, c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Alors c'est intéressant de voir qu'à partir de Proclus, on est devant l'ère des commentateurs. L'ère des commentateurs, alors, ne se pose plus la question du tout que les philosophes se posaient, comment le logos nous dit quelque chose de Dieu. C'est quand même très important, ça. Et toute la philosophie grecque a été cette recherche. Et c'est, on n'a jamais fait, mais si vous regardez l'histoire de la philosophie grecque à la manière de Ray, la philosophie grecque nous montre l'éclosion de la science. C'est de savoir qu'est-ce que c'est que Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est beaucoup plus profond. Parce que qu'est-ce que c'est que la science? C'est très vrai qu'on l'a cherché. Et la science est née en Grèce. On l'a dit, on l'a redit, on continuera de le dire. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité est quelque chose de beaucoup plus profond. Les philosophes grecs recherchent qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que les dieux? Est-ce qu'on est en face de réalités qui sont des réalités capables de nous attirer et de finaliser, ou est-ce qu'on est en face de mythes, de mythes politiques, si bon que ce soit. Second moment de notre philosophie, c'est très important, c'est les pères de l'Église et les théologiens. On était les pères de l'Église avant, parce qu'ils sont avant. Ils disent très vite les théologiens, mais bon, les pères de l'Église et les théologiens. Alors, c'est la foi qui commande tout. Et on se sert, on utilise la philosophie grecque pour non pas savoir ce qu'est Dieu, mais, alors c'est là où on voit très nettement, dans cette perspective des pères de l'Église et des théologiens, on voit trois questions par rapport à Dieu. L'existé de Dieu. Saint Justin, très très vite, l'existé de Dieu. Alors, pratiquement tous les pères de l'Église, je crois qu'il y a une exception. Et c'est un petit père, hein. Ça fait un peu de détail. Tous les pères de l'Église reconnaissent que notre intelligence humaine est capable d'atteindre l'existé de Dieu. Là, on est en face du patrimoine le plus profond de toute la tradition chrétienne. Donc ça, il faut le reconnaître. Hein. J'ai relevé, hein, si ça vous intéresse, au moins jetez un petit coup d'œil, parce que c'est intéressant de voir ça. C'est quand même intéressant. Moi, j'ai voulu le faire, parce que personnellement, c'était une question qui m'intéressait, et je voulais voir vraiment. Et on voit que tous les pères de l'Église, alors ils s'appuient sur des textes multiples et divers, des textes de l'Écriture. Je les ai énumérés parce que ces textes de l'Écriture sont quand même intéressants à voir. Vous avez donc en appendice, tome 2, lettre de Dieu, en appendice, quand on voit la connaissance naturelle de Dieu selon le Dieu. Et vous avez tous les textes que j'ai relevés parmi les pères de l'Église, qui sont les textes qui sont dans l'Écriture, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Autrement dit, l'Écriture, constamment, nous rappelle que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. On a toute une série de textes qui sont là, importants et imposants. Et les pères de l'Église, ils ont regardé attentivement ça. Ils ont commenté ces textes. Donc, première affirmation presque unanime chez tous les pères de l'Église. Parce que tous les pères de l'Église reconnaissent que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'excès de Dieu. Ceci a été unanime. Même Occam. Occam n'a pas brisé. Il faut voir que c'est à partir de Luther qu'il y a eu la logique. Ça, c'est le bon point. Luther dit non, l'intelligence humaine n'est pas capable d'atteindre l'existence de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on a dit fidéisme. Il faut se rappeler ça. Le fidéisme consiste à dire que l'intelligence humaine n'est pas capable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc là, il y a une position des pères de l'Église, une position théologique, qui est très importante à voir. Et comme me disait un théologien romain que je connais bien, celui qui traduit tous les documents du Saint-Père en latin, quelqu'un qui fait ça beaucoup d'amour, il me disait que 95% des théologiens d'aujourd'hui étaient fidéistes. Moi je disais 80, et lui a dit 95. Alors, dans le, c'est 95 des théologiens de l'Église. On leur poserait la question, est-ce que l'intelligence humaine peut arriver à découvrir ces livres? Donc ils sont dans une position que l'Église n'accepte pas. L'Église reconnaît que c'est très difficile. Mais on doit affirmer que l'intelligence humaine doit par elle-même remonter jusqu'à Dieu. Vous comprenez que quand on supprime ça, on supprime la signification profonde de la mutualité. Donc, au fond, on supprime l'intelligence, on éteint l'intelligence, et on retombe sur la raison. Et c'est pour ça que c'est si grave. Parce que c'est nous mettre dans un état d'obscurité. C'est pratiquement accepter un état de telle fragilité de l'intelligence que l'intelligence ne peut pas remonter jusqu'à l'extérieur. Alors à ce moment-là, on ne peut pas remonter à la source. Ça, c'est très important. Deuxième affirmation, qui est aussi très importante. L'intelligence humaine ne peut pas dire le ti esti de Dieu. Le ti esti de Dieu nous échappe. Nous avons une connaissance de l'exister de Dieu, et nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Alors vous voyez là, la position avec les Grecs, c'est très intéressant. Il y a une précision très nette. Les Grecs posaient le tiesti de façon très générale. Dès qu'on précise que l'intelligence humaine atteint l'existé de Dieu, on dit qu'elle atteint l'existé de Dieu, mais elle ne peut pas atteindre ce qu'est Dieu. Le lui, comme il parle de latin et grec, c'est le tiesti et le lui. Et la troisième affirmation, nous sommes faits pour la vision béatifique. Et la vision béatifique ne donne pas la compréhension. Je crois qu'il y a trois grandes affirmations qui intéressent directement le problème de l'intelligence face à Dieu. Nous sommes faits, nous ne pouvons pas saisir ce qu'est Dieu. Ce ne sera que quand nous aurons la vision béatifique que nous comprendrons ce qu'est Dieu, mais nous ne pourrons jamais le comprendre d'une manière exhaustive. Alors il y a la vision, donc ça a mis du temps, ça c'est beaucoup moins unanime. Ces deux questions sont unanimes, pratiquement. Et la troisième question, elle a été précisée par Saint-Denis. Avant, ça reste un petit peu vague, pas très précisé. La vision et la compréhension. Je crois qu'il y a donc trois grandes positions philosophiques. Trois grandes positions, je veux dire, de l'intelligence face au mystère de Dieu. Alors comprenez que ces positions, ce sont des positions de réflexion critique à l'intérieur de la théologie. Réflexion critique du théologien. Et ça, c'est intéressant à voir. Qui, par le fait même, font l'apologétique. Il n'y aurait pas d'apologétique si on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Le fondement de toute apologétique, c'est de fonder l'existence de Dieu. C'est de découvrir que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Vous voyez, l'apologétique va naître à partir de là. Et le premier grand apologète, c'est Saint-Justin. C'est né très très vite, l'apologétique. C'est très très vite. Et elle existe toujours, même si on peut critiquer l'apologétique, on peut critiquer certains aspects de l'apologétique. L'apologétique métaphysique, qui n'est plus une apologétique, reste aussi celle. C'est-à-dire montrer, comprendre comment l'existence de Dieu peut être atteinte par l'intelligence humaine, je crois que c'est absolument nécessaire pour nous. Et nous sommes dans la grande tradition, dans les mesures même où nous existons. Même si on voit que c'est très difficile. Et en fait, c'est très difficile. Bon. Il faut de notre part comprendre que ces positions des théologiens et des pères de l'Église sont très multiples. Pourquoi ? Parce qu'ils vont assumer progressivement toutes les parties de la philosophie grecque. On commence par les stoïciens. On continue par les platoniciens, les néoplatoniciens, les platoniciens et Aristote. Donc Aristote est arrivé aussi très vite. Maxime, le professeur, aujourd'hui, on considère qu'il se sert quand même d'Aristote. Il n'y a pas que l'Occident qui s'est servi d'Aristote. Maxime, le professeur, se serait servi aussi bien de Platon que d'Aristote. Ça, c'est une question très difficile, parce que dans quelle mesure c'est du Platon, dans quelle mesure c'est d'Aristote, c'est très difficile. En fond, Maxime le Confesseur a un grand amour pour Aristote. C'est pour ça que les Occidentaux se sont jetés sur Maxime le Confesseur depuis le père Daniel. N'est-ce pas? Ça, c'est une part de la crème. Maxime le Confesseur, je suis là. Faites une thèse sur Maxime le Confesseur, vous êtes très bien vu. C'est quand même important. Maxime le Confesseur représente ce qu'il faut savoir. Pas nécessaire de faire une thèse dessus, mais il faut savoir que c'est quand même du côté grec. L'influence aristotélicienne platonique. L'influence aristotélicienne platonique en du point de vue grec. Tandis que du côté latin, il faut attendre 50 ans avant qu'Aristote apparaisse. Vous avez évidemment de ce côté-là le sommet. Il y a deux points de vue, deux moments intéressants à saisir pour nous. Saint Anselme et Saint Thomas. Je crois que c'est deux moments particulièrement intéressants. Si on ne peut pas tout voir, on voit au moins la position de Saint Anselme et la position de Saint Thomas. Évidemment, la position de Saint Augustin. Augustin, Anselme, Thomas. Il y a trois positions magistrales. Et trois positions magistrales. Très important à voir. Augustin, Anselme et Thomas. Saint Augustin, dans une perspective néoplatonicienne, dans une perspective plotinienne et néoplatonicienne, et platonicienne en même temps. Saint Augustin va de fait montrer que c'est par l'intériorité qu'on peut remonter le plus immédiatement à Dieu et le plus vite. Saint Anselme va lui. On n'a pas le temps de le voir, mais c'est intéressant de voir Saint Anselme, parce que Saint Anselme est quand même le premier dans l'Occident qui a essayé, à partir de la foi, fides querens intellectum. Fides querens intellectum. Ça, il faut retenir la formule. Hein. Même si vous avez du mal à comprendre, retenez la formule. Fides querens intellectum. La foi cherchant l'intelligence. Et je crois que c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il va le faire par rapport à l'existence de Dieu. Il va partir de la foi. Saint Anselme est un croyant. Il part de la foi. Et à partir de la foi, il va essayer de comprendre l'intelligence que nous avons de Dieu. Et c'est ça son propos. C'est pas du tout s'opposer à la foi, mais c'est de montrer que la foi est super intelligente. Si la foi est super intelligente, la foi doit nous donner une conception nouvelle de Dieu. Et donc, à partir de la foi, découvrir ce qu'est Dieu. Ou plus exactement, à partir de la foi, découvrir que nous ne pouvons pas nier, si notre intelligence est bien faite, nous ne pouvons pas nier l'existence de Dieu. Et il se repose sur le texte fameux des psaumes. C'est celui qui pas très intelligent, l'incipient dixit in corde suo Deus nanest. Et il dit in corde suo, donc il ne prolifère pas, mais il dit dans le fond de son cœur, et saint Anselme dit ça pour le petit novice qui est en paix. Alors il dit dans le fond de son cœur de temps en temps, Dieu n'existe pas. Alors saint Anselme doit répondre à ce petit novice, parce que c'est un abbé qui est attentif à ses novices, et alors il fait pour ses novices, progressivement, trois livres successifs, c'est pas mal, trois livres successifs pour montrer que il n'y a rien de plus intelligent que d'affirmer que Dieu existe. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait dire. Il n'y a rien de plus intelligent que d'affirmer que Dieu existe. Si vous niez l'existence de Dieu, vous niez ce pourquoi l'intelligence existe. Et c'est pour ça qu'il prend avec tellement de force incipiens dixit in corde suo deus nanest. Donc l'incipient, l'imbécile dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Alors comprenons bien, l'imbécile dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est le texte majeur sur lequel, de fait, saint Anselme base cette recherche pour montrer que si je crois en Dieu, Dieu a une signification. C'est là le point de vue très très intéressant à voir. Si je dis Dieu existe, Dieu a une signification. Alors quelle est cette signification de Dieu? La signification de Dieu ne peut pas être autre chose que l'être le plus grand qui vous existe. Dieu, c'est celui qui est au premier, qui est la première loge. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Donc, dans la foi, quand je dis Dieu existe, je veux dire qu'il existe nécessairement un être dont la signification dépasse toutes les autres. Or, si Dieu, c'est la signification qui dépasse toutes les autres, nécessairement Dieu existe. Alors, ce sera donc par la signification de Dieu que je montre que Dieu existe. C'est là la grande astuce de saint Anselme. Montrer que l'exister est contenu dans la signification. Alors, quand on reprochera saint Anselme en disant « Mais attention !» Si je pense à une île merveilleuse, extraordinaire, moi je ne veux épouser que Missilia. Je ne veux épouser que Missilia, c'est pas. On ne sait pas à cause de ça que Missilia existe. J'ai un projet dans la tête. C'est pas à cause de ça qu'elle existe. Donc on lui dira, penser une île merveilleuse, ça ne veut pas dire que cette île existe. Alors saint Anselme répond, attention. C'est la signification de Dieu et non pas de Dieu. Donc ce n'est vrai que pour Dieu qu'à partir de la signification, il est appliqué d'exister. Et vous voyez là, il y a une petite tautologie. Parce que si déjà je regarde Dieu, je dirais la signification de Dieu qu'il existe. Donc à ce moment-là, ça prouve que j'affirme déjà que Dieu existe. Puisque je n'ai pas d'idée. Alors c'est là, quand il est délicat, je n'ai pas d'idée de Dieu. Tandis que pour saint Anselme, il semble bien qu'il y ait une signification de Dieu qui implique l'existence. Ce qui est intéressant à voir, c'est cette attitude qu'il a, ça me semble très intéressant. Que le croyant affirmant que Dieu existe, il atteint quelque chose que l'intelligence humaine peut atteindre par elle-même. Oui. Autrement, il le reconnaît de façon très maladroite. Mais il reconnaît que ce que ma foi dit quand je dis que Dieu existe, mon intelligence, si elle va jusqu'au bout de ses exigences, doit pouvoir atteindre ce Dieu que la foi. Alors, pour le montrer, le métaxu pour le montrer, c'est la signification de Dieu. Et le métaxu, quand je dis la signification de Dieu, c'est de montrer que comme Dieu est la réalité la plus grande que je puisse penser, peux pas penser une réalité plus grande que Dieu. Si je ne peux pas penser une réalité plus grande que Dieu, il faut nécessairement que Dieu existe. Parce que si je pense une réalité qu'elle n'existe pas, elle est moindre que penser une réalité qui existe. Autrement dit, l'exister s'ajoute à l'intelligibilité de la signification. Et si je soustrais de la signification de l'exister, si je mets entre parenthèses d'exister, ma signification ne va pas le plus loin qu'elle pourrait être. C'est donc essayer de comprendre ce qu'il y a d'infini dans cette signification du nom de Dieu, et de montrer que cette signification, puisqu'elle a quelque chose d'infini, elle a pris condition à l'exister. Alors vous voyez, tout le problème ça peut poser. Est-ce que je peux, par l'intelligibilité, rejoindre l'exister? Et au fond, c'est ce que Kant, il faut bien le reconnaître, a très bien saisi. Il a très bien saisi la fragilité d'un tel argument. Parce que si je suis dans l'ordre de l'intelligibilité, je ne peux pas, à partir de l'intelligibilité, rejoindre l'existence. C'est deux niveaux différents. Et nous rejoindrions là le point de vue de l'appréhension et le point de vue du jugement. L'appréhension est de l'ordre de l'intelligibilité. Et le jugement seul peut saisir l'existence. Et donc, mon appréhension peut aller le plus loin possible, elle ne remplacera jamais le jugement. Là, il y a quelque chose qui est très important à saisir. Ce qui est sûr, c'est que Saint Anselme, lui, a posé le problème de façon très particulière, dans une attitude de réduction critique, pour montrer que je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Et nier l'existence de Dieu, c'est nier la vitalité profonde de mon intelligence. Il reste quelque chose de juste, c'est très mal dit. Il reste quelque chose de juste. Il ne faut pas être passé sur le seul dans ce monde. Saint Thomas viendra ensuite. Alors, Saint Thomas, vous savez bien, c'est les cinq voies. Les cinq voies de Saint Thomas. Il faut au moins dans sa vie philosophique, avoir lu les écrits de Saint Anselme et vu les cinq voies de Saint Thomas. Question 2, article 3. C'est quand même un haut lieu. Il faut au moins l'avoir lu une fois dans un an. Je ne demande pas il y a combien parmi vous qui l'ont lu, parce que ce n'est pas la peine de lire ceux qui n'ont pas lu. Il faut l'avoir lu une fois dans un an. Et lu la plume à la main. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce que ça représente, ces cinq voies de Saint-Thomas. Ce qui est remarquable, c'est que Saint-Thomas n'emploie aucune voie intérieure. Aucune voix, à la différence de Saint Bonaventure, à la différence de Saint Augustin, à la différence de Saint Anselme. Et ça, c'est très net. C'est là où on voit le réalisme de Saint Anselme. Il n'emploie aucune voix. Il sait très bien que la voix intérieure serait beaucoup plus immédiate. Il n'hésite pas à le dire. Il dit par l'affectivité, on n'est plus pas de par l'intelligence. Il le sait. Je sais très bien, il ne faut pas dire que ça ne t'a pas remarqué, parce que c'est très bien. Enfin, c'est pour ça qu'il m'a rejeté. Non, c'est Thomas reconnaissait qu'il y avait une expérience interne de présence de Dieu. Mais ce que Saint Thomas cherche, c'est de voir comment le nous, l'intelligence, peut affirmer l'existence de Dieu d'une façon nécessaire. C'est que l'intelligence est obligée, si elle est loyale avec elle-même, d'affirmer l'existence de Dieu. Si elle est loyale avec elle-même, et elle suit les voies normales, les cinq voies. Alors, comprenons, là encore, que Saint Thomas fait cela à l'intérieur de sa somme théologique. Nous sommes donc en présence d'un théologien et non pas d'un philosophe. D'un théologien, nous sommes donc en présence d'une réflexion critique du théologien qui essaie de comprendre comment l'intelligence humaine, dans ce qu'elle a de plus profond en elle-même, est ordonnée à l'exister de Dieu, à l'essai. Comment l'intelligence humaine, dans ce qu'elle a de plus profondément d'elle-même, est ordonnée à l'essai de Dieu, à l'exister de Dieu. Et pourquoi ça demande ça au début de sa somme? C'est pour nous faire comprendre comment il peut y avoir une théologie scientifique. Si l'intelligence humaine était incapable d'atteindre l'existence de Dieu, autrement dit, si nous sommes dans une position fidéliste, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est de fait ce qui existe. Que tous ceux qui font profession de fidéisme, il n'y a plus de théologie scientifique. Ça ne peut plus exister. Il y a des théologies descriptives, structurelles, c'est tout. Il n'y a plus de théologie scientifique. Il n'y a plus cet effort que fait saint Thomas, dans la somme, d'essayer de comprendre, d'aller le plus loin possible, dans l'intelligence que nous pouvons avoir du comment de l'exister de Dieu, du comment de l'exister des sacrements, du comment d'exister du Christ. Ça n'existe plus. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Si l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre l'exister de Dieu, l'intelligence ne peut plus faire la différence entre la connaissance symbolique contenant des analogies propres et celle qui contient des analogies métaphoriques. Or, les analogies métaphoriques sont exclues de la science, alors que les analogies propres font partie de la science. Bien, si mon intelligence ne peut pas atteindre l'exister de Dieu, l'intelligence humaine sera incapable, en lisant l'Écriture, avec réflexion, de saisir ce qui dans l'écriture, qui est un langage symbolique, contient des analogies propres et ce qui contient des analogies métaphoriques. Donc, à ce moment-là, je ne parle plus qu'une seule possibilité, c'est de décrire. Quand je décris, je n'ai pas besoin de faire la distinction entre les analogies propres et les analogies métaphoriques. Quand je décris, je n'ai pas un sable de description. Tandis qu'au contraire, quand je fais une analyse théologique, je dois saisir les analogies, je dois distinguer les analogies propres des analogies métaphoriques. C'est pour ça que saint Thomas, avant de commencer la somme, fait l'épreuve de l'efficacité de l'intelligence. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la question de l'article 3. C'est de faire l'épreuve de l'efficacité de l'intelligence. Jusqu'où l'intelligence humaine peut-elle atteindre Dieu? Il y a la question 2 et la question 8, hein, qui sont à l'œuvre en parallèle, et qui correspondent exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les pères de l'Église. Et ce qui montre bien que tout le patrimoine des pères de l'Église, saint Thomas l'assume dans un point de vue critique, et il met de deux questions différentes, parce que ce sont deux questions tout à fait différentes, la question 2, article 3, l'existence de Dieu, et la question 12, laisse la connaissance de l'essence de Dieu. Ça, c'est capital de comprendre ça si on veut réfléchir un peu sur la somme théologique. Évidemment, c'est un effort de théologien. Mais c'est un effort de théologien, de théologie scientifique, où il veut essayer de montrer jusqu'où l'intelligence humaine peut atteindre. Pour ça, il faut bien saisir. Nous sommes dans une attitude de réflexion critique du théologien qui veut saisir quel est le lien qui existe entre l'intelligence humaine et l'essai de Dieu. Y a-t-il un lien immédiat, article 1er, contre saint Anselme? Je ne peux pas avoir l'intuition immédiate que Dieu existe. Ça, c'est l'article de bonheur. Question 2, article 1. Deuxièmement, je peux immédiatement montrer l'existence de Dieu. Et article 3, comment montrer immédiatement l'existence de Dieu? Je ne peux montrer l'existence de Dieu que par une démonstration a posteriori et non a priori. Et donc une démonstration imparfaite. Terriblement imparfaite. Parce que a posteriori, elle est analogique. Et non seulement elle est a posteriori et analogique, mais il y a les cinq voies. Et les cinq voies sont là pour conduire à l'affirmation de l'existence de Dieu. Et j'ai besoin d'une certaine manière des cinq voies, étant donné que la montée est rude. Si j'avais un regard d'aigle, dès que je mets les créatures, je dirais qu'il existe. Mais comme j'ai un regard métaphysique très faible, un oiseau de nuit, je mets du temps avant de découvrir comment dans l'homme il y a une présence nécessaire de l'exister. Comment l'homme est le lieu de la présence de Dieu, de l'exister de Dieu. Si j'en regarde plus profond, je pourrais dire directement, j'ai besoin de Dieu. Et au fond, c'est ça qui est très important à saisir. C'est que saint Thomas d'Aquin, celui de la grande tradition des pères de l'Église, et précise dans un langage aristotélicien, ce que les pères ne faisaient pas, que c'est par la causalité que je peux démontrer l'exister. Et ça, je crois que c'est impossible de nier. C'est par la causalité. À partir de l'effet, je remonte à la cause. Oui, thermodynamicosalitatisme, mais mettez thermodynamicosalitatisme sur le plan. Thermodynamicosalitatisme, thermodynamicosalitatisme, thermodynamicosalitatisme. Donc, c'était un peu perdu du temps. Parce qu'au fond, la causalité chez Denis est très proche de la participation. Pas aussi net que chez Saint-Paul, sûrement. Et c'est pour ça que Thomas a laissé tomber Denis, de fait, pour reprendre la position un peu plus précise de la causalité. Dans cette question, la participation n'apparaît pas. C'est ça qui est extrêmement clair. Il y a uniquement la causalité. La démonstration a posteriori, c'est par la causalité. Je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu a priori, c'est bien évident. Parce que démontrer l'existence de Dieu a priori, ce serait démontrer l'existence de Dieu à partir de l'essence de Dieu. Enfin, ce que vous voulez faire, c'est la signification, je ne peux pas, parce que je ne connais pas. Et donc, je ne peux le faire qu'à partir des effets. Et à partir des effets, je remonte. Et alors, saint Thomas donne les cinq voies, on n'a pas le temps de les voir ici, c'est bien dommage, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Peut-être qu'on consacrera la fois prochaine aux cinq voies. Ça vaut la peine. De comprendre. C'est quand même là quelque chose de tellement important dans l'histoire de la pensée occidentale. Plus on avance, plus on voit l'importance des symboles. Et plus on voit la difficulté des symboles. Et plus on voit l'importance des symboles. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit régler comme ça en disant je ne comprends pas, donc ça n'existe pas. Non, je veux dire autrement dire, non, il y a là quelque chose de très très important à saisir. Difficile, difficile. Mais vous voyez, c'est le passage de la philosophie à la théologie. Et le passage de la philosophie à la théologie scientifique. Donc c'est quand même ça qui est le sous-bassement. Si l'intelligence humaine ne pouvait pas par elle-même atteindre l'existence de Dieu, il n'y aurait pas de théologie scientifique. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez. Saisissiez de l'intérieur. Donc, saint Thomas va donc présenter là, je crois, un sommet par rapport à tout ce que les pères de l'Église et tout ce que les théologiens ont dit avant. Il résume tout, mais ce n'est pas un résumé, hein. C'est une organisation interne de tout ce qui avait été dit avant. Avec un rejet, c'est pour ça que c'est une organisation interne, parce qu'il rejette certaines voies et ne garde que les cinq. Parce que pour lui, il n'y a que les cinq qui sont vraiment scientifiques. Tout toute voie interne peut être beaucoup plus importante au point de vue pratique, mais elle n'est pas scientifique. Quand vous allez convertir quelqu'un, vous allez aider quelqu'un à se convertir, ne prenez pas trop les cinq voies de saint Thomas. C'est un usage interne. Parce que si vous prenez un usage externe, c'est très très difficile. Sauf si vous avez affaire à des intellectuels très, très forts. Alors, si vous avez affaire à des intellectuels très forts, vous pouvez essayer de faire comprendre les cinq voies de saint Thomas. Ça encore part aujourd'hui. Mais c'est difficile. Si vous avez affaire à un moins intellectuel, prenez beaucoup plus les voies intérieures. Elles ne sont pas politiques, elles ne sont pas démonstratives, mais elles émergent plus au cœur. Saint Thomas reconnaît que c'est par l'amour qu'on remonte plus immédiatement à Dieu. Et c'est évidemment par l'amour qu'on remonte beaucoup plus immédiatement à Dieu. Par le cœur, par la volonté. C'est par l'amour qu'il y a un contact beaucoup plus immédiat. C'est ça qui est très cru. Hein. Il n'y a pas d'évidence de l'existence de Dieu au niveau intellectuel, mais il y a une présence affective immédiate au niveau de Dieu. Saint Thomas représente donc un seuil. Immédiatement après Saint Thomas, vas-y maman. Immédiatement après Saint Thomas, il y a Octave, hein, ou bien. Octave, c'est bien être, hein, 14e siècle. Octave garde la possibilité de voir l'excès. Mais les cinq voies de Saint Thomas ne sont pas respectées. Octave ramène les trois premières à une seule, et puis d'un autre. C'est pas très bien. Parce qu'au fond, il est tombé dans les logiques, dans la métaphysique, il a disparu. C'est très difficile pour lui de pouvoir l'incliner. Ce qui est sûr, c'est que la troisième étape, c'est Descartes. Troisième moment. 1, 2, 3. Descartes sent la nécessité de prouver l'existence de Dieu. Et Descartes est le premier qui, par une voie purement rationnelle, veut prouver l'existence de Dieu. Il le dit. Saint Thomas n'avait jamais dit ça. Ça, c'est propre à Descartes. Vous voyez comment la philosophie de Descartes est apologétique. Elle est très apologétique. Il veut montrer immédiatement l'existence de Dieu. C'est pour ça qu'il le dit, du reste. Hein. Dans les méditations. Il dit que toute la philosophie n'a pas d'autre raison que de prouver l'existence de Dieu et de l'âme immortelle. Donc pour lui, c'est très net. Toute la philosophie, ce n'est pas autre chose qu'être une apologie. Prouver l'existence de Dieu et que l'âme immortelle. C'est pour ça qu'on fait la philosophie. Alors Descartes va être un novateur, il faut le reconnaître, par rapport à ce problème de. Des rapports entre l'intelligence et Dieu, par rapport au cogito. Comment le cogito nous met-il en relation avec Dieu? Comment le cogito peut-il nous mettre en relation avec Dieu? Et alors, ce sera par l'intermédiaire des idées innées. Que Descartes va voir le mieux là-dessus. L'idée de perfection me conduit à poser l'existence de Dieu. L'idée de perfection. J'ai en moi l'idée de perfection. J'ai en moi l'idée qui n'implique aucune limite, l'idée de perfection. Elle est infinie. Or, j'ai des limites, donc cette idée ne doit pas venir de moi. Or, tous ceux que je vois autour de moi sont limités. Donc cette idée de perfection ne peut pas venir de moi ni de l'univers. Elle ne peut venir que d'un être qui est parfaitement parfait. C'est peut-être cette idée. C'est donc par l'idée qu'il remonte à Dieu. Alors ça, je crois capital au point de vue tournant de la pensée. C'est capital au point de vue tournant de la pensée. C'est de prétendre que par une réflexion immanente, sur ma connaissance, je peux remonter jusqu'à Dieu. Et au fond, c'est le vœu qu'on a et que saint Thomas a très bien senti chez saint Ansel. C'est pour ça qu'on ne parle encore de saint Ansel du Guitard. Il ne faut pas le faire trop vite. Hein. Parce que c'est quand même très, très différent. Saint Ansel part de la foi. Descartes, lui, veut partir de sa réflexion philosophique cogito. C'est pas du tout de la foi. La foi, il nous en peut pas en tête. Donc c'est du cogito, c'est tout à fait autre chose. Le point de départ est tout à fait différent. Et là, l'arrivée, alors, c'est tout à fait autre chose. Le point de départ est très différent, et le terme est très différent. C'est par les idées. Donc Descartes est le premier qui, par une voie d'immanence, va remonter jusqu'à Dieu. Et là, dans cette voie d'immanence, Descartes reconnaît d'abord la causalité. Une voie a posteriori, par le point de vue de la causalité. Mais une causalité qui n'est plus la causalité telle que l'employait saint Thomas, qui est une causalité au niveau de l'intentionnalité. La causalité au niveau de l'intentionnalité, vous comprenez ce qu'elle est. Je découvre en moi l'idée parfaite. Cette idée parfaite ne peut avoir d'autre origine que Dieu. Donc cette idée parfaite nous permet de remonter jusqu'à Dieu. Alors, ce qui est très intéressant, et ce serait très intéressant à faire, parce que je ne crois pas que c'est fait, c'est de voir comment cette manière nouvelle de regarder la causalité me met toute proche de temps. Au fond, la causalité n'est plus la causalité, c'est uniquement un ordre d'antécédent et de conséquence. La seule chose qui peut exister dans l'ordre de l'intention. Ça, c'est Descartes qui l'invente. Donc, Descartes, à partir de là, vous voyez, ouvre la voie à la position, la position du Kant à propos du principe de causalité. Alors, Descartes reconnaît